6, 5, 4, 3, 2, 1.
Extramuros.
Extramuros.
Radio Évasion sort de ses murs.
Radio Évasion sort de ses murs.
En direct et en public.
En direct et en public.
Extramuros.
Bonjour et bienvenue dans cet Extramuros enregistré à Saint-Ségal où l'association Artisans est bien installée à Larribine. Larribine, c'est une rue des années 1940 reconstituée avec son bistrot, sa mairie, une habitation, une échoppe et cette grange dans laquelle donc est installé le studio. Le tout dans le vaste hangar de l'ancien musée des Champs de Saint-Ségal. Il y a de la place. Les artisans d'art peuvent venir régulièrement exposer dans cet espace à l'occasion d'événements, comme ce week-end des 20 et 21 juillet 2019. Et la section historique de l'association Artisans peut reconstituer le passé des années 1930 aux années 1960. C'est le cas aujourd'hui. Nous fêtons les 50 ans du premier homme sur la Lune. C'était un 21 juillet 1969. Armstrong posait le pied sur l'unique mais précieux satellite de la Terre. Pour fêter ça, il y a notamment deux personnalités que nous connaissons bien sur Radio Évasion. Vulgarisateur, médiateur, passeur de science. Geneviève Terrière qui est chercheuse physicienne du CNRS en retraite active, on va dire. Et aussi fondatrice de l'espace des sciences des RIA, c'est dans le Finistère en fait. Et Pascal Perdriau qui est le président de l'association d'astronomie de la presqu'île de Crozon, Aulne-Maritime, Cap des Étoiles. Et surtout depuis quelques temps, animateur infatigable de ce planétarium itinérant qui circule dans les écoles, les centres de loisirs, les manifestations comme de la Terre à la Lune où nous sommes aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous tous les deux, vous faites de la vulgarisation scientifique, chacun à sa façon. Et c'est l'espace que vous mettez en avant, en tout cas, on en a bien l'impression avec ce planétarium, il y a aussi les fusées, l'association d'astronomie. Alors pourquoi avoir choisi l'espace? Alors Pascal, vous commencez? Non?
Bon, je vais...
Geneviève.
Je vais vous contredire, nous n'avons pas choisi l'espace.
Allons bon.
Nous avons choisi les sciences et les techniques. Et le planétarium que vous avez vu, qui est dans le hall, là, dans ce lieu absolument magnifique et une organisation extraordinaire par les artisans d'art de Saint-Ségal, en réalité, c'est un dôme immersif dans lequel on peut projeter des vidéos 360 degrés. Et notre intention, c'est de ne pas projeter seulement des vidéos 360 degrés sur l'astronomie. Actuellement, ce sont les seules qui existent. Nous voulons en faire fabriquer par Aéroptique de Locquinelé, que vous connaissez bien, sur les recherches marines, entre autres, les recherches sur l'agronomie, tous les domaines de la recherche.
Sur les algues, il y aura notamment ?
Oui, alors il y aura sur les algues, c'est en cours, on va probablement filmer au mois de septembre, avec le musée de Plouguerneau et avec la station de biologie de Roscoff.
Donc on pourra avoir des films pas seulement sur l'espace.
Absolument, pour donner aux enfants l'envie de faire des formations scientifiques dans tous les domaines, et pas seulement l'espace. C'est sûr que l'espace est une très bonne entrée, parce que ça fait rêver tout le monde.
Voilà, Pascal, quand même. Pourquoi déjà une association d'astronomie?
Oui, parce qu'à l'origine, bon, évidemment, on s'occupait surtout d'astronomie, quoi. On a dérivé un petit peu sur toutes les sciences. Mais l'astronomie, là, c'est quelque chose qui passionne tout le monde. Là, on le voit ici, hein, tous les gens qui passent. C'est vrai que le planétarium, tout de suite, ça attire l'œil. Tout le monde veut voir. Même hier, là, quand il y avait les essais de l'orchestre, pourtant, il y avait beaucoup de bruit, ça ne fait rien. Les gens, ils voulaient quand même venir, donc ça les intéresse vraiment beaucoup. Et puis, au départ, bon, c'est vrai que le planétarium, par son nom, c'est déjà quelque chose qui est dédié aux étoiles, même si nous, on a dérivé un petit peu son utilisation. Mais donc là, on a surtout axé, parce qu'on avait beaucoup de matière au niveau logiciel, vidéo et tout ça. C'est quelque chose de très riche que l'on peut trouver sur Internet particulièrement. Donc on a beaucoup axé l'utilisation du planétarium sur l'astronomie et sur l'espace. Mais là, comme disait Geneviève, effectivement, donc on va diversifier un petit peu tout ça.
Mais sinon, l'intérêt pour l'espace du public, en général, il est assez indéniable. D'où il vient, à votre avis ?
Ah bah je pense qu'il y a un petit peu une quête de l'infini, de l'inconnu. Ça c'est quelque chose qui a toujours été, c'est dans la nature de l'homme en fait, de chercher à comprendre un petit peu ce qui se passe ailleurs, quoi, aussi bien dans l'infiniment grand que l'infiniment petit. Donc ça c'est quelque chose qu'on a en nous. Moi je sais que personnellement je suis venu à l'astronomie comme ça en fait, parce que bah, je me disais c'est pas possible là-haut, ces petits trucs blancs, ça doit bien avoir une histoire, ça doit bien avoir une finalité, ça doit bien vivre d'une certaine manière. Donc c'était de l'inconnu, quoi. Donc c'était la recherche de l'inconnu, quoi.
Et Geneviève, je sais ce que vous avez à dire sur l'espace, mais quand même, à votre avis, pourquoi est-ce que les gens s'y intéressent ?
Je peux parler de mon cas personnel.
Oui.
Moi, c'est ce qui me passionne, c'est de savoir que l'homme est capable de dépasser ses sens en inventant et en construisant des instruments qui lui permettent de voir, d'examiner, d'observer ce qu'il n'est pas capable de faire seul. C'est-à-dire les grandes découvertes qu'ont été au départ le microscope optique et la lunette astronomique. Donc c'est ça qui me passionne. Passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand dans le temps et dans l'espace.
Elles sont liées, ces deux découvertes ?
Oui. Oui, à mon avis, oui. C'est la recherche du dépassement des sens. Avant, nos sens étaient limités à la vue. Donc je comprends, ça faisait rêver de voir les astres, la lune, le soleil, bien sûr, les saisons, normal. Mais cette période est complètement, à mon avis, est complètement révolue.
Alors justement, on va y arriver. C'est vrai qu'on a l'impression que la conquête spatiale patine. Enfin, on va peut-être aborder la question après, mais en attendant, on lui doit quand même quelque chose à cette conquête spatiale. Est-ce qu'il y a eu des inventions, par exemple, qui sont nées grâce à la conquête spatiale, des inventions, des trouvailles, des découvertes?
Bien sûr, oui. De toute façon, c'est le cas de tout ce qui est aéronautique, déjà. Aéronautique et aérospatiale, c'est toujours ce qui est à la pointe du progrès, en fait. Parce qu'on cherche toujours des technologies les plus avancées possibles, ne serait-ce que déjà au niveau de l'espace, pour avoir surtout le maximum de légèreté.
Donc quand on fabrique une fusée, finalement, c'est bon pour les avions, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Puis même donc avion-fusée, c'est un peu la même chose. Hein. On retrouve les mêmes technologies à bord des avions et des fusées. Et tout ça, ça a des conséquences après, effectivement, sur le reste, en fait, hein, sur toute l'industrie par ailleurs. Mais c'est souvent les recherches. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, des recherches de pointe qui sont faites pour le spatial et pour l'aéronautique.
Il y a eu des découvertes sur le plan, je sais pas, peut-être de la biologie, la géologie, d'autres domaines scientifiques liés à l'espace, enfin liés aux voyages spatiaux.
Oui, on cherche au niveau biologie. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites, que ce soit à bord de la station Mir à l'époque ou maintenant de la station spatiale, justement pour voir un petit peu. Enfin, ça c'est pour voir un petit peu l'évolution, de mieux comprendre en fait comment fonctionnent les cellules, les plantes, enfin la vie en général. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors au niveau physiologique, il y a eu des recherches par exemple, je sais, sur l'ostéoporose, parce qu'on sait que les astronautes...
Dans l'espace.
Oui, dans l'espace, on s'est aperçu en fait qu'il y a une ostéoporose qui est beaucoup plus prononcée pour les astronautes. Donc il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites dans ce domaine-là. Si on veut garder des hommes, ne serait-ce qu'en orbite autour de la Terre déjà, eh bien, on est obligé d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça a des retombées tout de suite médicales, en fait, sur l'ostéopérose en général, quoi. Pas seulement celle des astronautes, quoi. Terrestre,
d'accord.
Des retombées terrestres, tout à fait. Ouais.
Geneviève, vous parliez d'une avancée scientifique qui a été faite par l'Europe sur la comète.
Oui, parce que je pense que les découvertes essentielles de la première partie du XXe siècle, c'était la physique. Mais que la deuxième partie du XXe siècle, la découverte énorme, ça a été l'ADN. La structure de l'ADN, c'est-à-dire la structure de la vie, et comment elle se reproduit, comment la matière organique se reproduit, d'ailleurs la matière vivante, et comment elle évolue. C'est actuellement, certainement, à mon avis, l'enjeu de ce siècle, c'est de comprendre le vivant. Et c'est pour ça d'ailleurs que, à mon avis, la manip scientifique la plus extraordinaire qui a été faite, je mets de côté les technologies essentielles qu'on utilise avec l'envoi des fusées, l'envoi des constellations, des satellites, pardon, on y reviendra. Mais à mon avis, la manip essentielle dans le domaine des connaissances, ça a été d'aller mettre un robot sur une comète envoyée par une fusée. Et voyage qui a duré 10 ans. pour recueillir des molécules qu'on a pu analyser, et on a pu voir qu'il y avait des molécules organiques, mais qui ne ressemblaient pas à celles qui étaient sur la Terre.
Donc ça, c'était Rosetta,
donc,
c'est ça ?
Donc, moi, je pense que le siècle, ça sera découvrir le vivant, et surtout comment fonctionne le vivant. On a essayé en laboratoire de reproduire le vivant, donc partir d'éléments organiques de base, et en changeant les conditions de température, de pression et autres, et de rayonnement, on n'a pas encore réussi. On pense actuellement que le vivant, on ne sait pas s'il a été apporté de l'extérieur, je dis la première molécule capable de se dépliquer.
Se reproduire, oui. On ne sait pas si ça vient de l'espace, c'est ça ce qu'on se
on ne sait pas. Savoir. Bon. Mais on sait qu'elle s'est développée très probablement dans une goutte chaude, c'est-à-dire une lave volcanique au fond de la mer, où il y a eu à la fois la mer, l'eau qui est essentielle, à la fois la chaleur et des éléments minéraux. On ne sait pas si c'est exceptionnel, et à mon avis, c'est l'enjeu du futur de ce siècle.
Donc l'exploration spatiale, c'est ça, c'est de trouver les origines de la vie.
Concernant le spatial, ce qui est extrêmement important actuellement dans tous les projets qu'il y a, c'est d'améliorer les satellites et leurs propriétés pour nous permettre à la fois de mieux développer nos connaissances en mettant des télescopes extérieurs à l'atmosphère terrestre de plus en plus performants, bien sûr, pour comprendre mieux l'univers. Ça, c'est la connaissance. Mais ce qui est très important, c'est pour donc des satellites plus performants pour les communications et surtout pour connaître la Terre, pour observer la Terre et prédire.
Pascal, Perdrix.
Oui, je reviens sur le vivant. On s'aperçoit que dans l'espace, en fait, on arrive à analyser des nuages qui se trouvent à des milliers d'années-lumière de nous. Et on peut connaître leur composition, en fait, uniquement avec leur rayonnement. Et on voit qu'il y a beaucoup d'acides aminés. Et que tous les acides aminés, en fait, qui composent, ce sont les briques du vivant, en fait, sur Terre. Et on les trouve dans l'espace. Donc, déjà, il y a déjà des fabrications qui se font dans l'espace où. C'est sous l'effet des rayonnements, de tout un tas de choses en fait, qui ne sont pas encore complètement connues. Mais donc on est entouré de choses, des briques du vivant en fait. Mais là, alors, quel a été le déclic, dans quelles conditions ça s'est passé effectivement? Là, pour l'instant, on ne sait pas encore pour passer de ces briques-là. C'est comme si on assemblait des briques de Lego et un jour, pouf, le Lego devient vivant, quoi. Là, c'est un peu pareil avec la vie. Et ça, on ne sait pas comment ça s'est passé, quoi, effectivement.
Mais aller observer l'espace nous aidera à trouver la réponse.
Observer l'espace, c'est une partie du chemin vers la réponse.
Le vivant a peut-être existé. Il existe peut-être encore. Mais il a probablement disparu. C'est peut-être probablement très loin. Il est probable qu'on ne saura jamais.
Quel vivant ? Le vivant où ça ?
Pardon ?
Vous disiez, il a disparu.
Oui, vu le temps, vu les distances d'observation, ce qu'on observe au loin n'existe plus.
D'accord, s'il y a du vivant dans l'espace, on ne peut pas le voir.
Non.
En fait, il est déjà mort.
Il est déjà mort. C'est ce qui est fascinant, et c'est à mon avis la notion très importante qu'il faut faire comprendre aux jeunes enfants, c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand, dans le temps et dans l'espace. Ce qu'on voit, on sait très bien que le soleil, il faut, Pascal, combien de minutes pour que le rayonnement du soleil arrive ?
7 minutes.
Ouais. 7 minutes. Et alors, quand on voit une étoile lointaine, elle a déjà disparu, elle est déjà morte quand on voit la lumière arrive.
Observation spatiale, machine à remonter le temps.
Oui, si on prend une galaxie très proche, très connue, là, qui ressemble à la Voie lactée, qui est la galaxie d'Andromède, elle se trouve à 2,2 millions d'années-lumière de nous. C'est-à-dire que si jamais on avait... même une émission radio, en fait, quelque chose... il y a des concurrents, peut-être, là-bas aussi.
C'est ça. Les ondes radio voyagent bien dans l'espace, non ?
Mais si jamais on recevait quelque chose sur Terre, en fait, c'est quelque chose qui aurait été émis, donc sur cette galaxie, il y a plus de 2 millions d'années. En 2 millions d'années, on voit qu'il faut moins que ça pour qu'une civilisation puisse disparaître. Hein. Puis l'homme n'existe que depuis 2 millions d'années, en fait, hein, le premier homme. Donc c'est vraiment court et c'est vraiment une galaxie la plus proche, mais il y en a d'autres qui se trouvent à des milliards d'années-lumière de nous. Est-ce qu'une civilisation, quelque chose qui pourrait ressembler à être humain, mais enfin qui soit autre chose, est-ce que ça pourrait tenir un milliard d'années ? Effectivement, si on a des nouvelles de ces gens-là un jour, de ces extraterrestres, c'est pas dit qu'ils existent encore, quoi.
Donc la vie ailleurs dans l'univers, c'est vraiment ce qui nous fait vendre aussi la conquête spatiale, hein, on peut le dire.
Oui.
Enfin, même sur Mars, on a cherché quand même des traces de vie.
Oui, bah, entre autres, c'était, je crois que c'était en 1996, la NASA manquait un petit peu de budget et ils ont ressorti une météorite martienne, quelque chose qui était tombé sur Terre mais qui venait de Mars. Ça arrive des fois, hein, suite à des collisions, il peut y avoir des morceaux de la planète Mars qui soient éjectés dans l'espace, ça va tourner pendant des millions d'années, ça va retomber sur Terre. Et là, en fait, ils ont bien voulu nous faire croire en fait, qu'il y avait des traces de vie bactérienne dedans.
Bon, on a bien voulu y croire.
On a bien voulu y croire, instants, mais oui. Ça leur a permis d'avoir un budget conséquent. Voilà. Et ils ont fait la même chose un peu plus tard, je ne sais plus en quelle année, en disant qu'il y avait un génome sur des bactéries enfin, qui était fait avec de l'arsenic, gna gna gna. Et ça permet, de temps en temps, quand ils n'ont pas assez d'argent, voilà, on relance une histoire comme ça, mais c'est un peu creux maintenant. Ouais. Avec le recul, on sait que c'était... C'était de la fake news, un petit peu, quoi.
Et alors, oui,
il ne faut pas mélanger science et science-fiction. Ouais. Et concernant Mars, effectivement...
Alors justement, on va y venir, ouais.
À Mars, on peut faire rêver et aller sur Mars. Enfin, il faut savoir que Mars n'a pas de gravité, pas de pesanteur. Bah, on sait l'inconvénient pour les humains. On sait ceux qui sont restés très longtemps dans l'ISS sont revenus avec des gros problèmes cardiovasculaires. Osseux, musculaires, cérébraux et dépression. Alors, vivre en apesanteur, bon, la reconstituer, bon. Pas d'eau, bon. Et pas d'eau, pas de vie. Bon.
On est sûr, ça, qu'il n'y a pas d'eau sur Mars?
Non.
Enfin, il y en a un petit peu, peut-être, aussi bien dans le sous-sol, non?
Enfin, on n'a pas tout découvert encore.
Rien par rapport à nos océans. Pas d'oxygène, qui est nécessaire à la vie. Donc, tout ça, à mon avis, c'est très bien pour obtenir des budgets, pour améliorer les satellites. Bon. Mais je ne pense pas qu'un chercheur sérieux, dans un laboratoire public, sérieux, forcément, obtiendra des crédits, hein, et même imaginera envoyer un homme. Qui prendra la responsabilité d'envoyer un homme 10 mois de voyage pour vivre sans eau, sans pesanteur, sans oxygène, sans plantes, sans rien, bon, et retour pas assuré. Quand on voit la difficulté qu'il y a eu pour ce lancement d'un homme sur la Lune, est-ce que ça a coûté? D'accord, actuellement, les technologies sont un peu plus au point. Enfin, 1 milliard, des milliers d'ingénieurs, des années, je ne sais pas, au moins 10 ans, et avec des essais infructueux au départ, je ne vois pas, on est très bien sur Terre, et je dirais même plus. La vie s'est développée sur Terre. À partir de la première molécule capable de se dupliquer, on est arrivé jusqu'à nous. Ça veut dire qu'on est vraiment fait pour vivre sur Terre.
Pascal, vous ne croyez pas non plus qu'on va s'installer sur Mars?
Ah, alors, ben, je serais un peu plus modéré.
Ah bon?
Ben, toujours pour la quête de l'inconnu, en fait. C'est vrai. Alors, c'est vrai que là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, enfin, elle ne l'a pas dit encore, mais avant qu'elle le dise,
bien sûr.
C'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus rentable et plus simple si on veut faire de l'exploitation ou des choses comme ça en dehors de la Terre, que ce soit des astéroïdes ou des planètes, c'est d'envoyer des robots.
Et ils sont plus efficaces que nous et ils ne craignent pas les dangers.
C'est beaucoup plus simple, ça va revenir beaucoup moins cher. Et ça, je pense que ça sera quand même l'avenir, quoi. L'homme, après, sur Mars, sur la Lune, pour l'instant, il n'y a pas vraiment une utilité immédiate. Parce que même si on disait bah, la Terre ne sera plus vivable parce que ceci, parce que cela, on va aller ailleurs, c'est encore moins vivable ailleurs. Donc... Non, c'est plus une quête de l'inconnu à la limite, mais si vraiment on cherche une rentabilité dans une exploitation...
Oui, parce qu'un privé comme Elon Musk, donc, n'enverra pas de gens sur Mars, à votre avis?
Je pense qu'il peut le faire aussi, parce que c'est un gros coup de pub pour lui.
Ça coûte cher, hein, le coup de pub.
Bah oui, très cher, mais même s'il donne des dates, je crois que c'est 2030, quelque chose comme ça...
Et une bonne assurance sur la vie pour celui qui l'enverra.
Je doute un peu, quoi. Je doute un peu.
À moins qu'il aille lui-même.
C'est ça?
Oui.
C'est bien. Il en aura bien assez des terriens.
Ça m'étonnerait.
Bah, des volontaires, on en trouve. Hein.
Mais c'est ça. Il y a toujours des gens qui sont volontaires pour l'aventure extrême.
Thomas Pesquet est volontaire pour
aller sur
Mars.
Il l'a redit récemment.
Excusez-moi. Ça permet à l'ESA d'avoir des crédits. Il faut voir que dans cette affaire-là, ça coûte extrêmement cher. Et pour que la population accepte qu'il y ait des budgets nationaux exorbitants. Il faut faire un peu rêver, mais ce n'est pas sérieux. L'ESA n'a pas de projet dans ce domaine. Et Dieu sait si l'ESA...
L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, je reprécise. Voilà. C'est l'équivalent de la NASA pour l'Europe.
Quand il est capable de faire des opérations extraordinaires comme l'affaire Rosetta Philae, là, il y a eu un budget et ça a été parfaitement réussi.
Mais effectivement, c'est vrai qu'il faut que la population soit de ce côté-là. Il faut qu'il soit motivé, effectivement, pour tel ou tel projet. Et donc, c'est pour ça que souvent, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes, pour nous faire croire que ceci, ça va marcher. Et en fait, c'est juste pour faire avancer le schmilblick. Mais voilà, les projets, il y en a certains qui n'aboutissent pas, quoi.
Et quand le régime est un petit peu plus autoritaire, comme par exemple la Chine, ils ne peuvent pas passer outre la volonté de la population
d'image. C'est vrai que c'est un peu différent, effectivement. Mais par contre, là, après, c'est plutôt une histoire de...
Politique.
Politique, c'est-à-dire, on va être les premiers à envoyer une femme sur la Lune, parce que là, ça va être la bagarre.
Ça pourrait être un objectif, bien sûr.
Ça va être au premier qui va envoyer une femme, quoi.
Peut-être que ça sera une Chinoise, quoi.
Ça sera une Chinoise ou une Américaine.
Oui, puis après ça, ils s'arrêteront. Quand ils auront compris, ils auront monté leur mise. L'Inde vient d'avoir un échec.
Oui.
Il ne va pas recommencer. Ils ont loupé le lancement de fusée. Bon, donc déjà, ça, y a l'Inde, non. Il n'y a pas beaucoup d'autres pays à pouvoir le faire. Envoyer des satellites, c'est sûr. C'est sûr. Là, ce qu'il va y avoir, c'est, à mon avis, attention, c'est une guerre, peut-être, dans l'espace avec les satellites. Satellites espions, déjà, ils ont réussi à faire tomber un satellite. C'est là où ça va se passer. Alors, il faut qu'ils montent leurs muscles, il faut que la Chine monte ses muscles. Mais la Chine, vraiment, n'a pas les moyens financiers actuellement. Il a d'autres choses à faire que d'envoyer quelqu'un sur Mars. Il n'a probablement pas non plus les compétences. Personne, actuellement, n'a, à mon avis, les compétences technologiques pour envoyer quelqu'un sur Mars. Avec sûrement y arriver. Il ne faut pas oublier que dans l'affaire de la Lune, il y a eu pas mal de suicides. Hein, parce que quand il y a eu un accident à l'essai de trois cosmonautes, il y a une des épouses qui s'est suicidée. Et puis un qui a réussi, c'est sa mère qui s'est suicidée. Parce que c'est un tel choc que je crois qu'envoyer sur Mars, il faudra prendre des assurances sur la vie. Surtout
des gens tout seuls qui n'ont pas de famille. Ça existe aussi.
Ça pose des gros problèmes, ne serait-ce qu'avec les rayonnements cosmiques ou des choses comme ça.
Le défi technique pour aller sur Mars, on a compris, est géant et assez insurmontable.
Oui, effectivement, j'ai envie de dire, mais attention, les rayonnements, c'est invivable.
Il
faut se protéger, il va falloir.
Et juste ce qu'on appelle le tourisme spatial, vous voyez ça comment alors? Est-ce que ça pourrait fonctionner?
Ça a déjà existé.
Ah oui?
Parce que c'était à bord de Mir, je crois.
Oui.
Oui. Donc il y a déjà eu un touriste. Donc effectivement, je crois que surtout ils cherchaient des crédits, ils cherchaient un petit peu d'argent. Donc parce que c'est quand même la place, c'est quand même pas donné. Hein. Ça sera pas Monsieur Tout le Monde qui pourra aller là-haut, c'est certain. Mais non, mais ça sera marginal, quoi.
Donc le tourisme spatial ne dépassera pas les stations internationales.
Et l'ISS va être abandonné.
Oui, justement, c'est une des questions que j'allais poser.
Oui, elle va être abandonnée parce qu'elle coûte trop cher.
Il
n'y aura pas de successeur. Donc vous voyez bien qu'actuellement, c'est satellites et robots.
Donc tout va se passer depuis la Terre. Finalement, l'exploration spatiale, il y a des
risques. Plus en plus, oui.
On n'a plus les moyens. Justement, parce qu'on va utiliser tous les moyens qu'on a pour améliorer la vie sur Terre. Ça, maintenant, tout le monde en est conscient.
C'est l'objectif premier, quoi.
Ouais,
certainement.
Et il y a déjà du boulot, là.
Oui, c'est ça. Ce qui n'exclut pas l'amélioration des connaissances, de la vulgarisation, je veux dire, sur l'espace.
Bien sûr. On a mis un télescope, un deuxième télescope, après Hubble, qui s'appelle Gaia, qui est encore plus performant. C'est sûr.
Qui nous permet de voir quoi, par exemple?
Je crois qu'il va beaucoup plus loin, des images beaucoup plus profondes de l'univers et avec beaucoup plus de précision.
Et puis on a vu des objets comme un trou noir qu'on a enfin vu récemment.
Ça, c'est une performance technologique, parce qu'il a fallu l'équivalent de 2 tonnes de clés USB comme information pour arriver à comprendre les images rayonnement qui parvenaient du tour de l'entourage d'un trou noir prise à partir d'un très grand nombre de télescopes, de radiotélescopes sur l'ensemble de la Terre. Vous imaginez la manip pendant des années.
Et on a essayé de faire la même chose avec le trou noir qui se trouve au centre de la galaxie, mais de la Voie lactée, de notre galaxie, Mais ça n'a pas bien fonctionné pour l'instant, mais les techniques vont être affinées, les logiciels également, parce que c'est un gros traitement logiciel des données. Il y a des montagnes de données à traiter pour pouvoir transformer ça en images.
Il ne faut pas oublier les radiotélescopes qui sont au sol. Ils sont très performants. Et on en fait de plus en plus performants.
Quels sont les mystères de l'espace qui nous restent à percer, à part la vie ?
Déjà, la majorité de l'espace, on ne sait pas ce que c'est, puisque c'est de la matière noire ou de l'énergie sombre. Donc on ne connaît que quelques pourcents de l'espace, c'est tout. Le reste, on ne sait pas ce que c'est. On sait que c'est là, mais sous quelle forme, on ne le sait pas. Et ça, c'est déjà un énorme mystère.
Et puis le Big Bang, évidemment.
Voilà.
L'avant.
Oui, on ne sait toujours pas ce que c'est ?
Non.
Non.
On est quand même sûr qu'il y a eu une explosion, entre guillemets, enfin qu'il y a eu un Big Bang.
Une extension. À un moment donné, puisqu'il en reste un rayonnement, qu'on appelle le rayonnement fossile, et qu'on a pu mesurer. Et il y a eu prix Nobel dessus. Donc il y a eu un moment où il y a eu une extension à partir d'une masse très concentrée d'énergie.
Mais ce n'est pas...
On sait après comment ça s'est passé, puisqu'il y a eu les premières molécules qui se sont constituées, ce sont les molécules d'hydrogène. Puis après ça, des molécules de plus en plus complexes. Mais tout ça, c'est un schéma très simpliste. Avant, on ne sait rien.
Parce qu'en fait, oui, ce n'est pas une réelle explosion. C'est vrai qu'on souvent le représente comme une explosion dans
l'espace.
Surtout
quand on dit bang.
On pense que ça a explosé dans l'espace, mais il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait pas de temps, très certainement, ni l'un ni l'autre. Et le Big Bang, c'est la création de l'espace-temps. Donc cette extension, en fait, ça a été l'extension de l'espace et du temps. La création de l'espace et du temps, en fait.
On va vous remercier pour ces visions vertigineuses.
Merci à vous.
On vous retrouvera prochainement quand vous aurez justement réalisé les vidéos dont vous nous parliez en début d'émission, c'est-à-dire sur les algues notamment, enfin toutes les actualités du planétarium qui ne sera plus seulement un planétarium, si j'ai bien compris.
Et pendant la fête de la science, au mois d'octobre, où nous allons organiser 3 villages des sciences, l'un à Crozon, le premier week-end d'octobre, le deuxième à Lanvéoc pour le deuxième week-end d'octobre et le quatrième à Pont-de-Buis les Chimères.
Et donc on refera une émission à cette occasion. Merci.
Merci, vous serez le bienvenu. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Extra Muros.
Radio Évasion.